Cazuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
La première chose que je peux vous dire.
Entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
Joseph Safiedine.
Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a probablement eu un complot contre moi. J'avais écrit un petit texte hilarant et plein de poésie, mais il a été perdu. Envolé comme une hirondelle. Merci la marelle.
Esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas.
Bonjour, bienvenue. La première chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est donc avec Joseph Safiedine, mais aussi avec Christophe Zabitch. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Voilà, qui est l'invité de cette émission. Joseph Safiedine est en résidence à la Marelle le mois de mars, avril et mi-mai pour un projet d'album. Tu nous en parleras tout à l'heure. Joseph, tu es né en France dans une famille franco-libanaise. Tu partages ta vie entre Paris, Beyrouth et Tyr, dont tu nous parleras tout à l'heure, puisque c'est une ville qui t'inspire beaucoup. Tu as sorti déjà pas mal d'albums avec plusieurs dessinateurs. On va parcourir, peut-être pas l'ensemble, mais parce qu'il y en a déjà pas mal, Joseph, d'albums de sortie.
Oui, il y en a eu quelques-uns.
Il y en a eu quelques-uns.
Non, pas énormément, mais il y en a eu une petite dizaine, je pense. Ouais. Plus les autres gens avec Thomas Cadenne, où j'avais beaucoup écrit... Oui. Ils ne sont pas tous sortis en album, mais c'était un gros projet pour moi sur plus d'un an.
Voilà. Et puis en ce moment, tu mènes aussi un projet intéressant avec Arte, d'ailleurs, sur un format de bande dessinée.
Exactement.
Un peu numérique, ouais. Et un peu innovant. Donc tu nous parleras de ça et tu nous évoqueras aussi, évidemment, comme on le fait d'habitude, au cours de cette émission, différentes choses qui te concernent. Cette première chose que tu as à nous dire, qui nous épingle un peu à la marelle, mais juste te dire que la toute première chose que tu as eu à nous dire, c'était « ça roule ».
Alors, j'avais peut-être mal considéré la beauté de la revue où cette phrase allait être imprimée. Et je ne m'étais pas vraiment foulé, mais alors je me suis bien rattrapé.
Oui, c'est pas mal.
Voilà. Mais ouais, ça roule. Ouais.
Christophe, toi, tu es aussi scénariste de bande dessinée, mais pas uniquement. Tu es écrivain, essayiste, tu vis à Bordeaux et tu connais bien le Proche-Orient puisque tu as fait de nombreux séjours en Syrie en particulier, mais pas uniquement, mais aussi au Liban. Si tu es ici, c'est à la fois parce qu'effectivement, cet univers et le scénario de bande dessinée te concerne, mais aussi parce que tu vas effectuer une résidence d'écriture à Beyrouth avec invité par la maison des écrivains de Beyrouth et Sharif Majdalani qui en est son directeur avec qui la Marelle a des échanges donc c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là tous les deux, c'est qu'il y a des résidences croisées entre Beyrouth et Marseille et c'était l'occasion de vous réunir même si la résidence se fait pas tout à fait en même temps, qu'elle est pas tout à fait sur les mêmes projets et le même dispositif. Sachant qu'on a aussi par la suite envie d'inviter Sharif Majdalani. Vous retrouvez tous les deux à l'issue de cette résidence que vous faites chacun dans ces deux villes séparées, mais réunies dans le futur. Pas forcément dans l'immédiat, ça peut être dans 6 mois ou dans un an, Inch'Allah, comme tu dis. Est-ce que tu dis ça régulièrement?
Non.
Joseph, non.
Mais au Liban, il le dit toutes les deux secondes.
Toutes les deux secondes. Et Christophe, tu es déjà allé là, tu reviens déjà de Beyrouth, tu as déjà participé à un salon,
un festival littéraire. Non, pas un salon, moi je suis allé à Beyrouth il y a 2 ans dans le cadre d'un livre qui s'appelle Être là avec Amnesty International, qui était un livre de reportage graphique, donc avec un collectif de dessinateurs, et en fait je suis allé à Beyrouth pour passer, disons, quelques temps chez une personne qui a eu une histoire que j'allais raconter dans le livre, qui s'appelle Antoinette Chahine. Donc j'ai passé quelques jours en famille chez elle. Et puis donc, j'avais une amie, enfin deux amies qui vivent à Beyrouth, et donc j'y suis resté un petit peu.
D'accord. Et peut-être qu'on peut commencer par ça, ce que ça veut dire pour l'un et l'autre d'accepter d'aller dans un lieu particulier pour travailler sur des projets d'écriture personnelle voilà, d'être en même temps dans une ville particulière qui forcément instille quelque chose dans l'écriture, dans votre posture. J'aimerais bien savoir comment ça se passe pour chacun de vous, peut-être en commençant par toi, Joseph, puisque là, tu viens de commencer ta résidence. Donc,
Alors, je viens de commencer la résidence à La Marelle, donc je serai... En fait, je me suis déjà isolé une fois ou deux, mais à Tyr, justement, parce que ça m'inspire beaucoup. Mais j'imagine que là, d'être à La Marelle ou dans un lieu un peu coupé aussi de son quotidien, de ses amis et tout ça, ça va permettre de se concentrer vraiment, en fait. Donc, je vais expérimenter ça maintenant. Parce que sinon, j'allais souvent dans un lieu que je connais bien, donc à Tyr, au sud Liban. Et là, c'est un peu différent. Je suis chez moi, là, c'est intéressant. Je suis dans un nouvel environnement, très au calme. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Okay. Mais j'ai pas souvent fait ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mais
donc
j'ai hâte.
Tu es un peu dans la curiosité de voir ce que ça peut provoquer.
Je vois déjà que ça me coupe d'un certain quotidien et ça permet de se concentrer vraiment sans être... Un peu parfois dérangé par ses amis et par voilà le quotidien classique tout simplement. Moi j'ai pas d'enfants ou de choses comme ça, mais mes amis typiquement que j'adore, que je salue ici
mais qui te dérangent quand même quand tu écris.
Non mais on peut vraiment se concentrer pendant ces deux mois voilà.
Christophe, tu as déjà eu une période comme ça d'écriture en résidence, vraiment au sens où on l'entend ?
Oui, ça m'est arrivé à Blois notamment, où j'avais fait une résidence un petit peu longue, qui était découpée en plusieurs temps. Mais sinon, moi j'aime bien, en fait, je m'organise des résidences privées, entre guillemets, c'est-à-dire que quand je connais quelqu'un qui a un appartement ou une maison dans tel ou tel endroit, je lui demande simplement de me la prêter. Et c'est vrai que il y a un livre que j'avais écrit, on m'avait prêté une maison sur une île, et donc j'étais tout seul sur l'île. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup ce temps où à la fois on est concentré sur ce qu'on est en train d'écrire, et puis comme le dit Joseph, coupé d'une certaine manière d'un certain nombre de choses du quotidien, de la vie, enfin ce qui fait notre vie. Et en même temps, on est dans un autre endroit qu'on ne connaît pas, donc on partage ce temps entre l'écriture et puis la découverte quoi, d'un endroit. Après, la résidence... moi, il y a un certain nombre de livres qui sont liés à des déplacements ou à des voyages. Oui. Et c'est quelque chose qui m'intéresse bien de savoir comment le lieu passe dans l'écriture et vers quelle écriture ça peut m'amener. Moi, c'est quelque chose que je cherche un petit peu dans l'écriture aussi.
Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'en fait, justement, vous avez tous les deux un rapport à l'environnement qui est quand même très fort. À la réalité, je dirais, à l'histoire pour tes livres, que ce soit d'ailleurs aussi bien des bandes dessinées que des romans ou des essais ou des livres collectifs. Il y a quand même une présence de la géographie, de la géopolitique, de l'environnement vraiment quotidien, l'actualité la plus brûlante parfois. Joseph, toi, tu as des albums de bandes dessinées qui sont aussi finalement très présents par rapport à ce qui nous entoure, que ce soit la guerre au Liban, même si elle est passée, la présence peut-être de cette guerre, mais aussi finalement dans des revues, des albums comme Salade, Tomate, Oignon, c'est la vie quotidienne, ça va vers des délires et des choses qui sont exagérées, mais c'est quand même très 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 présent. Donc ça m'intrigue un petit peu de savoir comment ça se passe quand on s'isole pour être en même temps plongé comme ça dans quelque chose de très très actuel, très contemporain, dont on pourrait croire qu'il vaudrait mieux être justement dans cet univers-là. Et vous, en fait, vous avez besoin peut-être d'écart, d'isolement.
J'ai hâte de t'entendre, Christophe.
Non, mais après, moi, quand c'est en déplacement comme ça, quand c'est dans un lieu, j'essaie surtout de ne pas être isolé, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'essaie de... vraiment de connaître le lieu, de rencontrer les personnes, de partager, de discuter. Enfin voilà, j'aime bien la conversation. Donc après, le temps de l'isolement, de l'écart, c'est celui de l'écriture. Et souvent, moi, quand j'écris des livres suite à un déplacement, enfin, il y a un temps de, disons, de prise de notes, d'écriture quotidienne, évidemment, ouais. Mais souvent, en fait, j'ai attendu assez longtemps. Enfin, il y a des livres où j'ai écrit ouais. Un an ouais. après, quoi. Et ouais. Parce que je voulais justement... Enfin, j'attendais qu'il y ait une certaine écriture qui vienne et je voulais me détacher un petit peu de ce qui s'était passé et voir qu'est-ce qui restait finalement de plus subjectif, hein, ce qui m'avait touché, ce qui m'avait marqué, enfin, ce que pratiquent plein de gens, c'est-à-dire le filtre un peu du temps et voir qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui reste. Puis, sinon, il y a des choses qu'on oublie et c'est très bien qu'on les oublie sans doute. Et puis, qu'est-ce qui reste et on travaille à partir de là. Donc, en fait, c'est deux temps un petit peu séparés, un petit peu différents. Enfin, là, je suppose que, enfin, moi, pour Beyrouth, en l'occurrence, quand je vais y être, l'envie que j'ai, évidemment, c'est de rencontrer beaucoup de gens, de me déplacer. Oui. De sentir, voilà, j'ai envie de m'immerger un petit peu dans ce... Parce que, bon, contrairement à Joseph, moi, j'ai pas d'attache libanaise, familiale, amicale, j'ai pas une régularité de séjour, j'ai pas, voilà, tous ces liens sensibles, affectifs, enfantins, enfin, ouais, j'ai pas de passé, donc du coup, dans ce temps de résidence, là, 6 semaines, bon, il faut que j'arrive à trouver quelque chose, à trouver un chemin là-dedans qui me soit propre, mais en même temps qui soit plein de, j'espère, de ce qu'est ce pays, cette ville, enfin, là, disons, un bout, ce qui va m'intéresser, quoi.
Oui, oui. Et puis, sachant que, effectivement, tu as déjà, survolé tu connais bien les pays environnants, mais effectivement là tu vas te plonger différemment.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais c'est vrai, quand la dernière fois quand j'y étais allé, j'étais vraiment resté dans une famille, quoi. Enfin, j'ai vécu avec eux pendant quelques jours, on a partagé pas mal de choses et tout, donc c'était une plongée comme ça avec quelqu'un, c'était très personnel et c'est cette écriture là que je cherchais. Après, avant, c'est vrai qu'il y a eu les plusieurs voyages en Syrie, puis un livre, bon, ça, c'était avant la guerre, et j'ai une approche un petit peu, enfin, une connaissance de cette région, mais qui est vraiment toute relative, parce que je suis pas de là, quoi, enfin, donc, mais bon, voilà, j'y suis déjà allé.
Ouais, mais tu te nourris avant de t'isoler, finalement, ouais, c'est un peu pareil.
Et Joseph, tu parlais, alors ça va me donner l'occasion aussi de commencer ce petit questionnaire autoportrait. Oui. Tu as parlé de Tyr comme étant un lieu où tu vas assez régulièrement pour travailler. Et c'est un endroit pour toi où lire ou écrire. Cet appartement avec une vue, alors je cite, avec une vue imprenable sur la mer à Tyr au sud de Liban. Ouais. Pour écrire, c'est le paradis.
Donc je suis franco-libanais. Et mes parents ont un appartement depuis une quinzaine d'années au bord de l'eau. Mais déjà, c'est une ville qui me touche énormément. En plus du fait que ce soit des racines et tout ça, j'adore le bouillonnement de cette ville. Et je dis souvent les mêmes phrases qui paraissent un peu clichés, mais le côté cabossé de la ville, je le trouve très, très, très touchant. Et c'est vraiment un regard qui est toujours un peu européen. Quand je dis ça, j'imagine que les habitants de Tyr, ils en ont marre des fils électriques dans tous les sens. Et que ça, ils trouvent ça un peu moins charmant, mais c'est une ville qui est très touchante et qui est bouillonnante. Et j'adore y aller pour me mettre au calme et écrire de temps en temps. Et en plus, j'ai beaucoup d'amis, de famille, et j'écris. En tout cas, j'écris pas mal d'histoires sur ma famille, notamment mon père qui m'inspire beaucoup. Mmh. Donc je trouve plein de personnages et je découvre plein de choses sur mes racines. À chaque fois que j'y vais, c'est toujours plein de découvertes. Ouais. Sur mes grands-parents, mes cousins, mes amis. Des anecdotes qu'on m'apprend 20 ans après. Voilà. Oui. J'adore y aller quand même pour ça. Ouais.
Alors, c'est une ville qu'on, si je me souviens bien, je ne l'ai pas reprise en main là, mais qu'on voit aussi dans Yalabay.
Je fais un album qui s'appelle Les Lumières de Tyr, où c'est des enfants dans les années 80. Au Liban, il y a l'État qui rationne l'électricité. Donc, les gens un peu riches mettre des compteurs privés en bas de leurs immeubles. En deux mots, c'est des enfants qui se disent que pour que les habitants de Tyr dorment, il faut remettre les moteurs sur on, parce que quand ça coupe en pleine nuit, on n'a pas le courage de faire les étages et de rallumer le moteur, et donc on crève de chaud. Donc ça se passe dans les années 80, et ça pourrait être inspiré de mon père quand il avait une dizaine d'années. Oui. Et il y a La Baye qui se passe en 2006, encore à Tyr. Et j'ai un autre album qui va pas être daté, qui pourrait se passer à Tyr, parce que le dessinateur avec qui je suis parti à Tyr pour Yalabay, c'est le même, Kyongan Park.
Voilà.
Mais voilà, ça sera dans une ville au Moyen-Orient, et il s'est inspiré de Tyr, parce que ça l'avait beaucoup marqué. Ouais. Mais ça sera pas clairement.
Ça, c'est l'album qui va.
Ça s'appelle Monsieur Coucou.
Monsieur Coucou, qui va apparaître sous peu et dont on a quelques planches dans la revue.
Exactement.
Apparaître.
Ouais.
Et du coup, là, c'est un peu le prolongement de ce travail que tu as déjà fait avec ce dessinateur.
Ouais, ouais. C'est le prolongement. Et puis c'est toujours. Je suis pas monomaniaque sur mon père, mais c'est un personnage qui me fascine. Depuis toujours, et Monsieur Coucou, je sais qu'il le prend bien hein, quand j'en parle, mais c'est inspiré d'une sorte de névrose qu'il avait, parce qu'il arrivait en France, et il s'est accroché à la famille de ma mère très rapidement, jusqu'à presque se faire adopter, et au point qu'il a presque éjecté ma mère et ses propres sœurs, notamment dans des moments de deuil. Et donc, ouais, moi, j'observais ça.
L'image du coucou.
Ouais, exactement. Ouais. Et voilà, après, l'histoire s'est complètement détachée de lui, mais le point de départ, c'est ce sentiment-là que j'avais observé il y a quelques années chez lui, ouais. Pour qu'il ait besoin de se trouver une nouvelle famille, okay. Au point de prendre un peu trop de place parfois.
Ouais, ouais. Alors, autre question qui se rattache un petit peu à ça, c'est un coup de cœur artistique. Et tu as choisi l'acteur Vincent Macaigne.
Oui.
Voilà, ça, il a l'air de toucher beaucoup.
Ouais, je l'ai découvert il y a quelques années dans plein de films. Je peux en donner quelques-uns. La fille du 14 juillet, La bataille de Solferino, il y en a plein. Faut le googliser. Mais bref, c'est un acteur. J'avais rarement vu un acteur. J'ai pas le monopole du bon goût, mais qui joue aussi juste. Enfin, en tout cas, c'est un jeu qui me touche beaucoup. Et il est metteur en scène, il fait plein de choses, il fait du théâtre. Il écrit, mais sa façon de jouer, ouais, moi, c'est comme ça que j'ai découvert en tant qu'acteur. Je le trouve assez bouleversant, très juste. Ouais. Et il joue plein de choses différentes. Là, j'ai vu dernièrement un film avec François Damiens, où il joue le rôle d'un mec un peu névrosé, un peu fou. Et il est super bon.
Ouais.
Voilà. Et d'ailleurs, l'album Monsieur Coucou qui sort avec Kyung, il nous a jamais répondu, mais je lui avais écrit un grand mail pour lui déclarer mon amour et lui dire qu'on voulait s'inspirer de lui pour faire bouger le personnage et dans les traits. Donc, comme il nous a pas répondu, on a un peu changé les traits du personnage pour pas avoir de soucis. Mmh. Mais Vincent, c'est toujours inspiré de toi si tu nous écoutes. Donc voilà, le personnage va ressembler un petit peu à Vincent Macaigne. Ouais.
Un petit hommage.
En tout cas, ouais, c'était des photos de lui que j'avais envoyé pour la doc et le personnage a été créé comme ça. Quoi.
Alors, je vous propose d'écouter à présent une chanson que tu as choisie aussi d'un groupe que tu venais de découvrir au moment où tu as répondu à cette question, le groupe Agar Agar.
Exactement.
c'est un extrait de la chanson I'm That Guy du groupe Agar Agar que tu as découvert tout récemment, Joseph, et tu dis ça tue.
Et ouais, ça tue, ouais, c'est vrai.
En tout cas, ça nous met bien en forme ici dans le studio. Et même Christophe se dit ah ouais, mais moi qui fais un petit peu de musique, un peu de musique.
Mal.
Mal et modestement, dit-il. Ça lui parle bien, ça. J'aimerais bien vous entendre parler l'un avec l'autre sur des questions d'écriture. Et du coup, je vais passer par une autre question pour aborder ça. C'est celle de l'auteur fétiche ou culte ou référence pour lequel tu aurais une éventuelle vénération. Et là, tu n'as pas n'importe qui quand même.
Mais ouais, je vais essayer de raconter l'histoire brièvement, mais je la raconte assez souvent. Moi, j'étais fan de Gottlieb sans comprendre vraiment ce que je lisais, parce que j'étais tout petit. Et j'ai un copain, donc on était c'était avant le collège, donc l'école primaire.
Oui.
Ouais, et qui m'apprend que sa mère fait de la danse avec la fille de Marcel Gottlieb. Et donc, il habitait à 200 mètres de chez moi. Donc, j'ai halluciné. Et à partir de ce jour-là, j'ai sonné toutes les semaines. Et j'ai fait des plans machiavéliques pour que mes parents le rencontrent au supermarché parce que j'étais trop petit pour avoir un copain adulte. Et voilà, donc je suis devenu très copain avec Gottlieb.
T'avais quel âge?
Bah, j'avais donc, 8 ans.
En primaire, à peu près, 8 ans.
Ouais. Mais à chaque fois, il me disait, ramène pas tous tes copains et tout, j'en ai tout mon collège, tout mon lycée, tout le monde est passé chez lui. Mais c'était incroyable. Déjà, tout le monde le sait, mais il était passionnant et très gentil. Je repartais avec des sacs entiers de cadeaux, de dessins, de cartes postales, d'albums. Donc voilà, c'était un. Et puis, il m'a passionné. Il me fascine. Je pourrais en parler des heures, donc ça va être un peu compliqué. Mais en plus d'être hilarant, il était extrêmement touchant. Et même dans. Enfin, voilà, j'apprends rien à personne. Mais je voulais faire de la bande dessinée parce qu'il m'a fasciné. Son musée, chez lui, ce qu'il faisait, son univers, son regard.
Voilà. Et du coup, le côté, cette écriture humoristique,
mais surtout la pudeur, caustique. Moi, c'est ça qui me. Ouais, en caustique, j'adorais. Ouais. Il me fait encore hurler de rire. Mais j'aime beaucoup. Enfin, comme beaucoup d'humoristes, encore une fois, mais il a eu une enfance très difficile, comme beaucoup de juifs de cette époque-là. Mmh. Et donc, il avait quelque chose d'assez dur en lui, assez noir, et c'est devenu un des plus grands humoristes français. Ouais. C'est devenu et voilà, quand on lit J'existe, je me suis rencontré, qui est son autobiographie, qui est hilarante. Il a cette pudeur où il raconte quelque chose de très très dur, et en une ligne, il te fait crever de rire, quoi. Et vraiment, c'est toujours comme ça. Et donc il est très pudique. Ça me touchait.
Alors là, c'est un auteur qui associait dessin et texte. Il faisait tout et très bien. Ouais. Tous les deux, vous êtes scénaristes. Non, je vais rester sur cette partie scénario, oui, Christophe, sûr, là, sûr. Aujourd'hui. Et pas dessinateur, même. Je ne sais pas si tu as tenté le dessin.
Je ne sais vraiment pas faire un carré.
Je ne sais pas faire un carré. Donc, Joseph n'est pas dessinateur. Christophe non plus. fais un carré. Non, c'est raté, effectivement. Mais vous n'avez pas forcément le même rapport au texte, à l'écriture, et surtout, puisque à chaque fois, du coup, quand on est scénariste, on travaille avec un dessinateur, forcément, vous n'avez pas le même rapport non plus selon les couples que vous pouvez former, les duos que vous pouvez former avec un dessinateur, ou même la conception, la manière de travailler avec. Alors j'aimerais bien vous réentendre là-dessus, je dis réentendre parce qu'on a entamé cette discussion hier soir au repas et ça me semblait passionnant.
Très bon.
J'avais vraiment envie que tout le monde l'entende. et du coup, Joseph, peut-être cette expérience-là de travail avec Jung, comment ça se déroule, puisque vous avez envie de remettre ça pour un deuxième album, c'est que ça se passe bien.
Dans le tout, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de dessinateurs comme toi, Christophe, mais ça se passe jamais de la même manière. C'est vraiment à chaque fois un duo assez intime, parce qu'on travaille, c'est des projets artistiques, donc c'est assez particulier, je trouve, comme... c'est une sorte de... On devient un peu une unité, quoi. Il y a un truc assez fusionnel, et c'est jamais pareil. En tout cas, avec moi, ça n'a jamais été pareil avec les dessinateurs ou les dessinatrices. Mais avec Kyung, ce qui était assez génial, c'est que c'est quelqu'un de très professionnel et très investi. Donc pour un album qui s'appelle Yalabai, il a absolument voulu venir... au Liban, donc à Tyr, parce que ça se passe à Tyr, pour capter la lumière, pour la dessiner, par exemple, le jour où il est parti au Liban, il y a eu la guerre en Syrie démarrait, son avion a été détourné à Damas, donc lui il était en panique, et ça l'a fait marrer de voir que tous les Libanais restaient hyper calmes, une espèce de flegme. Et en tout cas, il monte ses carnets de croquis, parce qu'il était très stressé, il dessinait à des Libanais, qu'il avait entamé à Paris. Et les Libanais lui ont fait non, mais ça, c'est des Syriens. Donc des néophytes n'auraient jamais vu la différence. Ouais. Bon, je sais pas si... Mais voilà, c'est pour ça que c'est important de parfois aller sur place. Il a pu ajuster son trait et même la façon de bouger. Quoi. Là, il n'y a pas d'image, mais ils ont une façon de bouger qui est assez marrante, très méditerranéenne, peut-être. Je ne sais pas. Hein. Mais tout ça, il l'a ajusté. Et c'est par tous ces petits détails qu'il a pu rendre la BD plus juste.
Et en discutant avec toi, ça a pu aussi faire évoluer le récit, les dialogues.
Déjà, lui, il m'a énormément guidé, hein, parce qu'il a, il est fort, quoi. Et parfois, il me disait, il est très bon pour dégraisser, lui aussi. On en parlait hier. Il me dit, voilà, il pouvait résumer une scène qui faisait 5 pages et on en faisait qu'une double page, par exemple. Il me faisait, mais regarde, elle est juste comme ça. Et il a cet œil-là.
D'accord.
Mais bon, il y a aussi un côté dans cette bande dessinée qui est un peu reportage et ça a permis en termes de timing et il a fait un vrai chaque rue qu'emprunte les personnages, il l'a dessiné au caillou près et il a fait attention dans le découpage. Bon, on a fait attention ensemble à ce que le rythme soit bon quand des personnages partent d'un point A ils vont à un point B du quartier chrétien musulman au quartier chrétien quand ils s'enfuient typiquement, qui a un timing assez précis. Voilà. Mais donc avec lui, c'est particulier, c'est la première fois que je travaille avec un dessinateur. Et sur un sujet et un lieu qui est assez intime et aucun dessinateur n'est encore venu à part lui découvrir cet endroit-là.
Dans l'espace même où ça se
dans mon appartement à Tyr, enfin notre appartement.
Ouais. D'accord.
Christophe, comment tu travailles toi ? Est-ce que tu as une expérience comme ça aussi de duo avec un dessinateur qui te marque particulièrement, avec qui tu as envie de recommencer à travailler, par exemple ?
Alors, moi, j'ai travaillé avec des. Enfin, le point de départ, c'est de travailler avec un dessinateur dont j'aime beaucoup le travail et le trait, parce que ça va être en bande dessinée, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a finalement deux écritures qui se rencontrent, puis ça en fait une troisième, et donc du coup, le dessin va être l'incarnation sensible des mots, et donc ça va être dans cette association qui va se passer aussi quelque chose. Donc du coup il faut vraiment que j'aime beaucoup le travail du dessinateur pour avoir cet intérêt là donc ce qui fait que les dessinateurs avec lesquels j'ai travaillé, ben j'aime leur travail, donc chacun ils sont très différents, donc j'ai fait deux livres avec Benjamin Flao, qui est un très grand dessinateur, avec Nicolas Dumonteuil, avec Jean-Denis Pendanx. Maintenant, je vais travailler avec Georges Gonzalez, qui est un dessinateur argentin, qui a un travail magnifique, absolument magnifique.
Je confirme.
Oui, Joseph connaît.
Donc,
je suis très jaloux.
Donc moi, j'ai pas une production énorme en termes de bande dessinée. Donc à chaque fois, c'est un petit peu long et c'est comme le dit Joseph, c'est un dialogue, une discussion aussi avec un dessinateur, même si je sais qu'il y a ces deux temps de solitude aussi qui se rencontrent, quoi. C'est-à-dire que chacun, il faut qu'on aille le plus loin possible, moi dans l'écriture, donc même il y a des discussions préalables, mais je sais qu'après il y a un temps de solitude où je vais aller au bout de mon histoire, de mon écriture, et le dessinateur de la même manière, il aura un temps où il va être seul avec son trait, avec sa mise en scène, et comment il va s'emparer des mots, comment il va s'emparer de l'histoire et tout ça, et moi je laisse le récit assez ouvert. Enfin, je fais pas de découpage, case à case, page à page. J'essaie de faire imaginer au dessinateur ce que j'ai en tête, en fait, et tout en le laissant ouvert. Et je peux donner. Bon, moi, j'étais très marqué. Bon, toute l'époque Gottlieb et tout, ça m'a beaucoup marqué. Après, j'étais très marqué par Hugo Pratt. Ça, c'est ma génération. Donc, du coup, toutes les je mets un certain nombre d'indications de temps. Je suis assez sensible au temps dans la bande dessinée, au traitement du temps, comme Hugo Pratt, un des maîtres dans ce domaine-là. Et donc, voilà, je peux donner des indications de temps, mais j'essaie de faire imaginer. Après, quand on travaille avec quelqu'un, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir. Oui, quelle va être l'incarnation, comment il va s'en emparer, en fait. Et après, on peut retravailler, justement, sur peut-être, couper un petit peu de texte ou pas, ou développer des choses ou pas. Enfin, moi, je sais que sur l'expérience, sur le livre collectif Être là, où là, il y avait 10 dessinateurs, 10 lieux, 10 histoires. Bon, là, j'étais un petit peu plus directif, entre guillemets. Et là, j'ai eu plus un travail, comme tu dis, de dégraissage, de réduire, parce que j'étais incapable d'imaginer suivant le trait des dessinateurs, suivant leur écriture, combien de pages ça prendrait. Et là, on avait un petit peu des contraintes fortes en termes de pagination. Donc là, effectivement, j'ai eu un travail vraiment de voilà, pour épurer ensuite. Mais j'essaie déjà, au départ, quand j'écris l'histoire, d'épurer beaucoup, en fait. Moi, j'aime bien essayer de trouver des voix, en tout cas pour les personnages. Et j'essaie d'épurer, parce que la bande dessinée, dans cette association, il faut pas que le texte envahisse, quoi, les ouais. pages, les cases. C'est un dialogue, mais il faut que le trait, il faut que le dessin existe, il faut qu'il y ait de l'air, moi j'aime pas trop les pages très très découpées avec 10 cases ou dans tous les sens et tout. J'aime bien une forme d'épure aussi, de découpage très simple, voilà, parce qu'il faut que le dessin puisse exister en lui-même, enfin, parce que c'est ça aussi, enfin, le dessin, on est évidemment dans le domaine artistique, bon, voilà, c'est l'écriture, on est plutôt dans le domaine littéraire, donc on croise les deux, enfin, on croise un art graphique, un art littéraire. Oui. Et,
comme tu peux le faire d'ailleurs aussi avec la photo, parce que là j'ai parlé des scénarios, mais tu as aussi réalisé des livres avec des photographes.
Oui, j'ai publié 3 livres avec un ami photographe sur des choses très très différentes, et là, c'est pareil, on est dans un rapport texte-image qui m'intéresse vachement, comment on dépasse. Moi, j'aime beaucoup des gens, leur texte, enfin, dessin. J'en parlais hier, Frédéric Pajac, par exemple, voilà, que j'adore autant dans l'écriture que dans le dessin et dans l'association des deux. Et le livre en Syrie qu'on avait écrit avec Christophe Goussard, dont le photographe, en fait, il y avait 2 parties qui étaient d'une certaine manière documentaires, mais très subjectives. Et une autre partie, donc avec texte et photographie en noir et blanc, et une dernière partie qui était une fiction, qui est où j'essayais de raconter la fausse apparition de la Vierge dans le village de Mahaloula, au nord de Damas, où là on a inversé, c'est-à-dire que moi j'écrivais tous les jours, et lui me lisait, il allait chercher avec un petit appareil basique les preuves de ce que j'écrivais dans la réalité du village, en fait. Donc on a inversé le jeu documentaire. Et voilà, c'est des expériences texte-image qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Quoi. Mais c'est sûr que quand on travaille avec un dessinateur ou un photographe, on se déleste d'une certaine manière de la part descriptive de l'écriture. C'est pour ça que j'aime bien la chercher aussi ailleurs, ou là, ou dans une écriture seule. Cette part descriptive, cette construction descriptive est évidemment très présente. Là, évidemment, avec le dessin et l'image et la photographie, cette part-là tombe un petit peu d'une certaine manière, parce qu'elle est incarnée, elle est là, quoi. Ouais.
Juste dire que Être là, c'est un album qui est collectif, effectivement, qui a été réalisé avec Amnesty International, qui était publié aux éditions Futuropolis. Il y en avait un autre auquel tu as participé aussi, qui était Immigrant.
Oui, qui était un collectif aussi. Voilà. Ouais.
Joseph, c'est intéressant, je trouve, cette part documentaire, comme tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, le rôle du dessinateur qui finalement tient là-dessus. Et toi, alors à ce moment-là, comment est-ce que tu replaces ou tu recales les choses dans l'écriture quand il y a du dégraissage ou quand il y a des choses? Est-ce que ça va aller sur les dialogues, par exemple? Est-ce que ça va aller
énormément sur les dialogues? Ouais. Mais alors, toi, Christophe, tu découpes... Moi, contrairement à Christophe, je découpe tout, ce qui n'est pas forcément une... Bon, c'est comme ça que je fais. Mm-hmm. Et c'est vrai que derrière, on refait le storyboard, et là, en général, quand il y a un bon éditeur et un bon dessinateur, ce qui arrive souvent, heureusement qu'il y a ces deux regards-là pour revoir tout ça. Moi, c'est ma façon d'écrire, mais comme disait Christophe, je suis très content quand le dessinateur réinterprète lui-même le découpage, le rythme, et que ça s'adapte à son écriture à lui. Donc, et après, selon en fait le découpage du dessinateur, donc au storyboard, on se rend compte que ce dialogue il fonctionne plus, ou qu'il faut aller plus vite. Ouais. Donc c'est là la partie au storyboard où les choses se figent un peu plus, hein, avec mes albums en tout cas, et on s'ajuste, le couple s'ajuste en fait, ou le trio s'ajuste.
Mais cela dit, moi, si je le fais pas, ça, le découpage, j'ai essayé, hein, à un moment donné, j'ai essayé, mais en fait, dans l'écriture, ça m'allait pas, ça me portait pas, je sentais pas grand chose, et surtout parce que je considère que je suis moins bon que le dessinateur pour faire ça, quoi. Enfin, moi, en ce qui me concerne, et je pense que le dessinateur, par rapport à la mise en scène, à son découpage, il faut qu'il ait aussi cette relation sensible à ça. Ouais. Et qu'il ait cette liberté, mais parce que je considère qu'il est meilleur que moi pour le faire, donc c'est pour ça que je le fais pas, et puis ça me correspond pas dans l'écriture, quoi. Mais après, chacun, évidemment.
Moi, c'est plus un support, en fait, où il s'appuie dessus et il revoit après à sa sauce. Mais je sais qu'il y a des dessinateurs qui détestent ça. J'avais lu que Frédéric Peters, les rares fois où il a travaillé avec des scénaristes, ou les quelques fois, mais en tout cas, il préfère avoir un texte qu'il redécoupe lui-même. Peut-être que tu le connais,
Non, qui mais je connais son travail, mais ouais. Non, je le connais pas.
Voilà, il y a des dessinateurs qui peuvent pas recevoir un texte découpé, quoi. Ça leur casse tout leur imaginaire.
Donc c'est de plus en plus aussi, le cas, ouais. Parce que nous on est scénaristes là aujourd'hui, en 2017, mais il y a eu une époque où les scénaristes étaient rois et les dessinateurs étaient des... les années 50, les années 60, où les dessinateurs étaient un peu des exécutants d'une certaine manière. Le scénariste avait une position de, voilà, il leur donnait. Donc là, je trouve qu'aujourd'hui, si on peut, c'est un peu avec le... Il y a des choses qui ont basculé, et puis... Après, je pense que les dessinateurs plus jeunes sont sensibles à cette part de liberté qu'ils trouvent dans l'écriture et dans la rencontre avec une écriture.
Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est au-delà de l'aspect artistique, parce que je trouve que c'est le cas pour chacun de vous, c'est que finalement, vous allez vers des sujets d'écriture qui vous touchent personnellement, qui peuvent être d'ailleurs familiaux, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, là, une sorte de fascination pour ce père qui est devenu un personnage, mais qui est aussi toute une histoire familiale, mais aussi tout un contexte historique, politique, etc., mais qui est quand même très personnel. Christophe, toi, tu as beaucoup voyagé, mais à chaque fois, finalement, sur des terres qui te marquent, qui te portent et qui te concernent personnellement, qui te renvoient peut-être aussi à une histoire familiale aussi, puisque Dabic est aussi l'ex-Yougoslavie, en quelque sorte, donc, et qu'il y a des liens avec la guerre civile, avec des trafics d'armes, etc. Et en même temps, finalement, ce travail-là, vous pouvez le confier, en quelque sorte, le partager à quelqu'un d'autre qui a un autre regard, qui vous apporte autre chose, qui vous dévie de votre projet initial, peut-être. Donc j'aimerais bien... Pourquoi pas faire les choses directement tout seul, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte, finalement, de travailler comme ça avec un partenaire artistique qui va peut-être vous entraîner ailleurs que là où vous souhaitiez aller au départ?
Enfin, pour le livre, il y a un livre que j'avais écrit avec David Prudhomme qui s'appelle Voyage au pays des Serbes, donc, parce que j'étais beaucoup allé pendant les guerres en ex-Yougoslavie. Et en fait, moi, j'avais fait un documentaire il y a longtemps pour Arte avec un cousin à Belgrade. Et quand j'avais proposé au dessinateur de venir avec moi, c'était pour me sortir de mes ornières d'une certaine manière. Parce que j'y avais beaucoup voyagé, j'y avais beaucoup été. Alors moi, j'étais pas dans une recherche de racines, parce que c'était très lointain, c'est mon arrière-grand-père. Ouais. Donc j'y étais revenu avant le début des guerres, et puis après beaucoup pendant, mais c'est une période j'avais une vingtaine d'années, donc qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il y a des... comme pour Joseph, le Liban aussi, il y a des moments historiques, évidemment, un certain nombre de grandes questions se posent, et qu'elles sont incarnées là, sur l'instant, avec des gens qui les vivent, et que vous partagez ça, et du coup, voilà, donc ça a été très, une forme d'éducation, d'une certaine manière. Et donc, moi, l'idée, c'était qu'ils me sortent un petit peu de mes ornières, et que je n'aille pas forcément, que je ne revienne pas forcément toujours dans les mêmes choses, donc là, ça a été un partage. Mais c'est vrai qu'il y a un livre assez personnel, plus directement familial que ce que je pensais, que j'ai écrit, qui s'appelle L'Adieu au fleuve, avec cet ami photographe. Mais en fait, c'était le long de l'estuaire de la Gironde, parce que j'habite à Bordeaux. Mais finalement, on s'est retrouvé avec un livre tête bêche. C'est-à-dire qu'il y a une rive du fleuve qui a été faite en photographie par Christophe Goussard, parce qu'il avait aussi des attaches familiales de l'autre côté. Et finalement, ma partie, ça a été que du texte.
Et pas sur la même rive.
Voilà, sur l'autre rive, donc celle du Médoc. Et là, du coup, on était seuls.
Oui.
On a partagé l'espace du livre relié par la rivière, quoi, enfin le fleuve. Mais dans cette partie-là, j'étais seul dans l'écriture, et parce que là, je pense que c'était un petit peu évident pour moi de cette manière-là, d'être un petit peu seul dans cette écriture, dans cette évocation.
Et Joseph, cette association alors avec des dessinateurs pour aborder des questions qui en fait sont des thématiques d'écriture très personnelles.
J'imagine que ce rapport assez intime et un peu de psychologie quand on tombe sur un bon partenaire, il permet de sortir le meilleur de ce qu'on a à dire, de prendre du recul. Moi en tout cas, ça m'a fait cet effet-là. Par exemple, Kyung, pouvait me poser la bonne question au bon moment, et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans cette scène-là que j'avais pas vu, que lui avait vu en fait et pas moi.
Ouais.
Et d'un coup, il me poussait à la travailler un peu plus. Et...
En posant les personnages sur le papier, en quelque sorte.
Même, ça, en, ça comprenant, lui même en comprenant. Ouais, même en disant, non, il faisait, mais cette réplique-là, ça veut dire que... Bon, si je prends mon père en exemple, ça veut dire que ton père a vécu ça et que c'est comme ça qu'il te regarde. Alors, est-ce que c'est pas intéressant qu'il y ait un dialogue qui irait dans cette direction? Est-ce que ça a existé dans votre histoire? Bon, si ça n'a pas existé, je peux fantasmer un dialogue. Ça m'est déjà arrivé pour romancer l'histoire. C'est quand même toujours du... Mais en tout cas, toujours sur une émotion qui est juste et que j'aurais peut-être pas vu... ou comprise
oui.
On sait jamais. À l'écriture. Et voilà, bah moi en tout cas, ça me permet d'avoir ce recul-là et de fouiller certaines choses qui restaient en surface sinon.
D'accord.
Oh, ouais. Puis tu fais parler dans Y a la baille, enfin ton père, la famille, ouais. Fais parler les gens qui te sont proches. Donc ce qui est très particulier, de donner une voix.
Ouais.
C'est ça que je te posais des questions là-dessus tout à l'heure avant l'émission sur est-ce que ton père t'avait raconté lui-même ou est-ce que tu as eu plusieurs versions. Enfin comment on recompose des voix de ceux qui sont si proches comme ça, c'est assez délicat. Quoi.
Ouais, c'est assez délicat. Et je te disais tout à l'heure, ce qui est assez marrant dans toujours Y a la baille, parce que c'est une histoire personnelle, c'est que j'ai posé des questions à toute ma famille, mais j'avais pas la même version pour le même événement. Ils avaient tous une version différente, donc fallait aussi. Et là, c'est là où Kyung pouvait me permettre de diriger un peu mon tir dans une direction qui lui paraissait plus intéressante dans toutes celles qui étaient proposées. Et voilà, ils avaient pas vécu la même chose et ils l'avaient tous interprété très différemment. Voilà.
Nos auditeurs auront compris que cette émission n'est que la partie immergée d'une conversation souterraine qui dure déjà et qui va se prolonger, j'ai l'impression. Il y a autre chose qui m'intéresse aussi dans le dessin et la bande dessinée qui est peut-être le fait de pouvoir se représenter soi, puisque dans Y a la baille, le personnage, c'est plus ou moins Joseph, c'est très proche de toi en tout cas, tout en étant justement là aussi dans une distance. Ça permet peut-être de se regarder sans être dans le jeu autobiographique traditionnel du roman.
Alors j'aurais du mal à répondre quelque chose d'intelligent, mais par exemple, la seule bande dessinée où il y a un personnage qui pourrait me ressembler, c'est donc toujours Y a la baille, et c'est vrai qu'il s'appelle Gabriel, bon, c'est mon deuxième prénom, donc c'est pas... Mais j'ai pas vraiment réagi comme ce personnage. Je l'ai vécu assez violemment cette histoire. Mais par exemple, puis non, mais tout est assez juste. Mais j'ai pas frappé mon chien. Je donne toujours cet exemple où je parlais pas forcément comme le personnage, même si même si tous les coups de fil, les angoisses et tout ça, c'est là. Mais je serais incapable en fait de décrire comment j'étais à cette époque-là. Donc c'est du fantasme et c'est aussi des moments qu'on m'a raconté, que mes copains m'ont raconté. Oui. Moi, j'ai eu aucun recul de cette période-là. C'est assez flou, quoi.
Oui.
Donc, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, il y a une distance. Et puis, ça permet d'assumer aussi que c'est quand même une histoire où on essaie de coller une certaine réalité. Et qu'en général, je pense que je vais continuer dans ce genre de direction-là, mais avec une vraie distance et un point de vue. Donc, c'est romancé.
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas. J'ai pas la vérité sur mes parents, ma famille, mon père ou les prochains personnages. Donc, il y a un point de vue à partir de là. C'est pas un documentaire, quoi. Même si j'adore les documentaires.
On va parler des documentaires tout à l'heure, peut-être en revenant sur ce Dabić, je pense que ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, un cousin serbe pour Arte, puisque ça nous permettra aussi de parler peut-être de ce projet pour Arte qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais juste avant d'écouter un autre morceau, je voudrais que tu nous dises un petit mot de l'image de couverture, qui est un portrait de toi par le dessinateur Pochep.
Philippe Pochep, oui. Pochep, c'est un des piliers de Fuite Glaciale. Non, mais c'est un très bon copain et il est très fort en caricature. Donc
C'est une caricature,
ouais.
Mais on te reconnaît.
Thomas Kaden avait en deux mots lancé un projet génial qui s'appelait Les Autres Gens et Pochep faisait un résumé où il nous caricaturait tous, nous les auteurs et les personnages qui comprenaient rien à cette histoire qui était compliquée. Enfin, c'était très drôle et on est restés très copains depuis. Et donc voilà, le dessin de... sur cette très belle revue, c'est lui qui l'a réalisé.
Ok, je vous propose à présent d'écouter un deuxième choix musical que tu as fait, qui est Lucky Star de Vitalik. We'll be right back. Lucky Star de Vitalik. Voilà, on va remettre les chaises au milieu du studio parce qu'on les a poussées pour danser. On était dans une boîte de nuit à Beyrouth, là.
Exactement.
Joseph, ouais. C'est comme ça.
Je suis sûr qu'à Marseille, il passe du Vitalik aussi.
Ouais, ouais. Mais voilà, tu mets ça pour te réveiller le matin ou
Pourquoi pas, ouais.
Ouais, ouais, pour, ouais. Ou pour danser le soir.
Bah, les deux.
Les deux. Alors, on va, on s'achemine vers la fin de cette émission. Peut-être encore quelques petites questions très, très rapides auxquelles tu as répondu. Par exemple, un agacement. Alors, il y a un truc qui t'agace, vraiment.
Ah ouais, ouais. C'est vraiment bête. Hein.
C'est bête, mais,
j'ai mis des, mais ça peut être ouvertures pas faciles des Mr. Freeze. Ouais.
Ouais, c'est ton côté... Ton côté
comique de supermarché.
Comique de supermarché. Bah, mmh. Allez, ouais, on va dire ça. Une journée type de l'écrivain au travail. Alors là, tu veux pas en parler.
Mais ouais, mais j'en ai pas vraiment. C'est quand même, je sais pas pour toi, mais. Enfin, toi, t'as peut-être des
8h midi, 14h, 16h.
Ouais. Pro. Hyper pro.
Non, non.
Ça m'étonnait aussi. Et puis ça dépend des moments, j'imagine que ouais. C'est pas forcément tous les jours pareil.
Non. Jamais. Même.
Ouais. Mais il y a des conditions plus favorables en dehors d'écrire face à la mer à tir.
Mais non, mais rien que chercher la bonne émotion, ça prend énormément de temps. Ouais. L'épiphanie, genre ça, d'un coup, ouais, c'est évident, ce personnage il va ressembler à ça ou ouais. C'est cette émotion-là. Qu'on...
Après, tu verras, Joseph, que lorsque tu auras des enfants. Tu vas, une certaine efficacité va s'imposer à
toi. Ah oui, j'imagine, c'est vrai. Tu oui. T'ordonnes énormément.
Oui, oui.
Là, t'es obligé d'avoir des horaires, là.
Non, non, mais bien sûr, mais je... Mais par exemple, c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un. Je travaille beaucoup avec Thomas Caden, et ça permet d'avoir des horaires, d'être très cadré, parce qu'on est un peu dépendant, enfin, responsable d'un timing et du timing de quelqu'un d'autre.
Oui.
Voilà.
une bonne résolution pour cette résidence à la Marelle. Alors, apparemment, tu vas la tenir. Tu as un scénario en tête.
Ah oui, oui,
depuis
oui,
des
exactement.
Mois.
Et bah, j'adorerais terminer l'écriture d'un scénario qui va... Bon, en tout cas, le titre de travail s'appelle Le Fusible. Et voilà, il est déjà bien entamé. Moi, j'aimerais beaucoup que cette histoire sorte complètement d'ici 2 mois.
Tu peux en dire un mot rapide ou...
Rapidement, ça va être un huis clos en France avec une famille franco-iranienne. Et j'espère... encore Thomas, ce fameux Thomas Caden avec qui je travaille beaucoup. J'espère qu'il va, je sais pas encore de quelle manière, mais écrire aussi avec moi cette histoire. Mais on est en train de voir comment et de s'ajuster. On sait pas trop. Ouais. Hein. Je lui ai proposé ça il y a quelques jours.
Et c'est aussi un récit familial.
Oui, oui, alors ouais. Toujours, c'est encore une. Ça aurait... Mais bon, elle est franco-iranienne, elle pourrait être franco-libanaise ou franco-portugaise. Mais évidemment que je pensais à ma famille. Il y a des personnages que je connais un peu, en tout cas pour. Pour démarrer l'histoire, c'est des personnages que je comprends et qui sont proches de moi. Après, on va s'en éloigner au fur et à mesure. Mais... Ouais.
Du coup, cette dernière question, je vais vous la poser à tous les deux. Un a priori sur Marseille. Tiens, Christophe, laissons un peu Joseph respirer.
Alors, je n'ai aucun a priori sur Marseille, si ce n'est l'écume qu'on entend partout en France de Marseille. Mais j'ai un souvenir qui est très très ancien. Il y a une vingtaine d'années, j'étais venu ici. C'était à l'époque de c'était la grande époque des Girondins de Bordeaux et donc de Marseille. Donc c'était l'époque Tapie, Bèze, l'époque des grands penseurs.
Ah oui.
et donc j'étais dans un petit bistrot là sur le port. Et puis il y avait j'étais à côté de quelqu'un. Assez costaud, et puis parler foot, tout ça, puis je sais pas, à un moment donné, on a commencé à discuter, et voilà, il m'a dit « T'es d'où, toi ?»
Et alors là, exactement, il a dit comme ça,
voilà,
je pense.
Oui, il a dit ça, t'es d'où, toi ? Et là, j'ai eu un peu peur, parce que je me disais, bon, si je dis que je suis de Bordeaux, Marseille-Bordeaux, je vais avoir, ça va être
pas
compliqué,
le moment.
C'est pas le moment. Je lui dis, bon, tant pis, puis je lui dis, écoute, je suis de Bordeaux. T'es de Bordeaux ? Quelle équipe, magnifique. Et voilà, alors c'était un admirateur contre toute attente de l'équipe de Bordeaux, parce que c'était la grande époque. Et voilà, donc voilà, c'est juste une petite anecdote. Mais non, j'ai pas d'a priori, c'est une ville où je suis venu plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Voilà, où je me sens plutôt bien. J'étais venu pour le festival du cinéma arabe il y a pas très longtemps. Et voilà, je trouve il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de croisements, des gens qui viennent un petit peu partout. Donc voilà, j'en ai une connaissance très superficielle, quoi, évidemment, parce que j'y vis pas, mais j'ai pas d'a priori négatif, quoi. J'aime bien cette ville quand je viens. Ouais.
Joseph ?
Mais j'ai pas d'a priori non plus, mais tu parlais de foot, je crois que c'est un secret de Polichinelle que la plupart des Marseillais sont fans du PSG, en fait. Et que, voilà, allez Paris, hein. Petite dédicace à Pélac.
Alors bon, je sais pas si tu vas pouvoir sortir du studio, je pense que ça ira. Dernière chose, j'ai évoqué tout à l'heure ce travail que vous avez fait l'un et l'autre pour Arte. Je n'ai pas forcément envie de faire de la publicité pour Arte, mais ce n'est pas la question du tout, c'est le hasard. Pour la télévision, tu as déjà évoqué un petit peu ce Dabic et Dabic, un coussin serbe. Peut-être tu peux en redire un petit mot et puis après on parlera du projet.
C'est très ancien, moi j'avais 22 ou 23 ans quand j'ai fait ce documentaire, qui était un documentaire très intimiste, très sobre, très simple dans sa construction, mais qui était un dialogue avec ce cousin à l'arrière du front, à Belgrade, autour des questions nationalistes. Voilà, c'était en pleine période guerrière. Et c'est un film qu'on a envoyé à peu près à... je sais pas, 50 chaînes partout dans le monde qu'on n'arrivait pas à vendre, etc. Et puis par le hasard de... j'étais journaliste à l'époque, et par le hasard de quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc. Voilà, c'est passé sur Arte. Et je pense que voilà, Arte repêche ou pêche un certain nombre de choses comme ça qui ont des constructions originales. Voilà, ce que j'en sais, c'est que c'est une chaîne qui a une ouverture intéressante, quoi, sur des formes de création. Et d'après ce que m'a dit... ce que nous a dit hier Joseph du projet en cours, c'est un exemple.
Alors Joseph, du coup, ce projet en cours, c'est une forme originale, oui, justement.
Ouais. Alors, ça sera une bande dessinée qui va paraître à partir de juillet jusqu'à fin août, donc tout l'été. Ça va s'appeler Été, d'ailleurs. Et c'est au dessin Erwan Surcouf, et après on est une petite équipe. C'est un producteur, Billy Garden Fiction, qui produit ça avec Arte, du coup. Et on écrit avec Thomas Caden, et il y a une auteure numérique web qui s'appelle Camille Duvelking. Et voilà, ça va être de la BD sur Instagram, et un épisode par jour tout l'été d'environ 9 cases.
Donc et une image par
une case, image par photo et il y en aura 9 exactement, comme des cases de bande dessinée. Ouais. Donc ça va être sur leur site. Je ne sais pas exactement de quelle manière ils vont présenter ça, mais voilà, ils vont lancer un Instagram visiblement, et puis ça sortira en papier en septembre chez Delcourt.
Et la sortie sur Instagram, ça sera à quelle époque ?
Y a un premier épisode qui va paraître fin juin pour expliquer un peu le projet, puis après un épisode par jour à partir du 1er juillet.
D'accord, donc
jusqu'à fin août.
À surveiller.
Ouais.
À surveiller. On a quasiment fini. Joseph, on va pouvoir te trouver à Marseille sur différentes rencontres au mois d'avril et mai. On retrouvera ça sur le site de la Marelle et dans la presse locale. Christophe, je ne sais pas si tu vas revenir à Marseille prochainement, mais en tout cas, tu vas aller à Beyrouth très bientôt, et on espère te retrouver du coup, peut-être en compagnie de Joseph.
Avec plaisir.
Dans les mois qui viennent. Je voudrais remercier tous les deux.
Merci.
Christophe Dabic, Joseph Safieline. Et pour la prochaine émission, ça sera soit un autre Joseph, qui est le Joseph Boyden, un écrivain canadien, anglophone canadien, qu'on va recevoir en résidence, soit Yannick Coat, qui est auteur, illustrateur jeunesse, qui va être en résidence. Ils vont être tous les deux en résidence en même temps, pas au même endroit, puisqu'on va avoir un deuxième lieu. Je ne sais pas encore lequel des deux va venir en premier, mais en tout cas, surveillez vos posts sur Grenouille. À très bientôt. Merci.
À bientôt.
Merci.
La première chose que je peux vous dire est une revue, radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mila Jarre. Production, Radio Grenouille et La Marelle. Présentation, Pascal Jourdana. Voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomared, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille. À la technique, Jean-Baptiste Imbert.
Otros accesos a lo no cotidiano. Simplemente para La Marelle est une structure hébergée à la Friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.